Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles et inspirantes les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, athlètes, explorateurs ou scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Cette semaine, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le gratin Bertrand Picard. Je dois vous dire que j'étais vraiment surexcitée à l'idée de rencontrer, même si c'était à distance, Bertrand, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis des années. Et donc, étant complètement groupie, j'étais absolument impatiente à l'idée de l'avoir à mon micro. Si vous souhaitez le retrouver, n'hésitez pas à faire un petit tour sur son site web, Bertrand Picard, avec deux C, je précise, .com, et pourquoi pas à le contacter sur Instagram ou LinkedIn, où il est également présent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bertrand, je vais vous lire sa bio de sa page Wikipédia. Celle-ci dit « Bertrand Picard, né le 1er mars 1958 à Lausanne, est un psychiatre et aéronaute suisse. Il a réussi, avec le pilote britannique Brian Jones, le premier tour du monde en ballon, du 1er mars au 21 mars 1999, à bord du ballon Breitling Orbiter 3. Il a co-développé et copiloté l'avion solaire Solar Impulse, avec lequel il réalise un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016, représentant le record de vol en solitaire sans ravitaillement ni escale, avec 5 jours et 5 nuits pour parcourir 8900 km. Comment vous dire? Si vous cherchez une personnalité inspirante, messieurs, dames, vous allez être servis. Parce qu'au-delà d'être un aventurier des temps modernes, Bertrand se définit, et nous allons d'ailleurs en parler durant cet épisode, comme un explorateur du monde intérieur et extérieur. Sa double casquette de psychiatre et avionaute fit de lui un personnage vraiment unique en son genre. Durant cette interview, nous avons donc parlé de l'incroyable aventure Solar Impulse, bien sûr, mais aussi de spiritualité, de prise de risque, de créativité, d'empathie, ou encore de la nécessité de changer de paradigme et de briser ses propres barrières mentales pour innover. Une leçon à s'approprier pour tous les domaines de la vie et que Bertrand a parfaitement résumé dans un livre que je vous invite d'ailleurs à découvrir, Changer d'altitude. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bertrand Picard. Bonjour Bertrand, bienvenue sur le gratin.
Merci Pauline.
Je suis très très contente, comme je vous disais à l'instant, de vous accueillir. C'est un peu, je ne vais pas trop vous flatter quand même, mais c'est un peu un rêve pour moi de vous avoir sur ce podcast. Donc je vous remercie vraiment. Bertrand, j'ai beaucoup réfléchi à comment commencer cette interview et je suis tombée sur une citation de votre part que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Si ça vous va, je vais vous la lire et je veux bien que vous me disiez finalement dans quel contexte vous l'avez dite et ce que vous aviez en tête en la prononçant. Alors je me lance. Vous disiez, je crois, « L'innovation ne vient pas quand on a une nouvelle idée. » L'innovation vient quand on abandonne une ancienne croyance. Par conséquent, pour inventer, il ne s'agit pas d'avoir plus d'idées, mais moins de croyances, moins de limites. Et à partir de là, on peut avancer. J'adore cette citation. Je suis pas sûre de tout comprendre ce que vous aviez en tête, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien que vous étayiez un petit peu votre propos, que vous développiez, que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous voulez dire par là et peut-être si ça a été dit dans des circonstances particulières.
Non, non, mais c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est vraiment pour moi la définition d'innovation. Si vous regardez une grande partie des inventions et des innovations, la rupture de paradigme, elle est pas forcément technologique, elle est beaucoup plus souvent psychologique. Vous prenez le premier avion, celui des frères Wright. Il était fait avec de la toile et du bois. C'est fou. Je veux dire qu'on aurait pu voler il y a 5000 ans. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que la mythologie l'interdisait. Et vous voyez même Léonard de Vinci qui a fabriqué des modèles d'avions au moment de la Renaissance, mais il ne les a pas essayés lui-même, il ne les a pas testés parce qu'il aurait été torturé et brûlé par l'Église comme hérétique. Donc, on voit bien que les frères Wright, en 1903, ils n'ont pas inventé dans le sens d'avoir une nouvelle idée, mais ils ont changé le paradigme. Ils se sont dit, nous, on va casser les règles, on va essayer quand même. La montée à l'Everest, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les Tibétains et les Népalais ont vu l'Everest pendant des siècles et ne sont pas montés? Mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne. Et c'est un Néo-Zélandais dans une expédition anglaise en 1953 qui est monté au sommet de l'Everest. Donc, on voit bien qu'on a souvent dans la vie un filtre qui nous fait croire que les choses sont impossibles parce qu'on extrapole le futur en fonction de notre passé. Et quand on n'a pas ce filtre, eh bien, on va réaliser des choses qui sont a priori impossibles. On va tout remettre en question. On va être insatisfait du présent et on va réussir des exploits incroyables. Et je pense qu'une grande partie des innovations qui ont fait avancer l'humanité sont venues de cette manière-là.
Vous avez déjà pu appliquer ce changement de paradigme dans votre propre vie, Bertrand, peut-être via l'un des projets que vous avez lancés?
Alors complètement Solar Impulse, c'était exactement ça. Quand j'ai parlé d'un tour du monde en avion solaire sans carburant qui volerait jour et nuit à l'industrie aéronautique, ils m'ont rionné et certains n'ont même pas répondu. Il y en a un qui a dit on n'est pas intéressé et puis les autres abonnés absents. Donc qui c'est qui a construit Solar Impulse? C'est un chantier naval.
C'est un chantier naval qui a accepté de le faire.
Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, ils l'ont fait. Et c'est pas simplement...
ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est très fort.
Oui, mais c'est pas seulement la plaisanterie de Mark Twain. C'est que quand il n'y a pas le filtre, eh ben, on essaye. On se dit, on va trouver des solutions. Et ce chantier naval avait des technologies de fibre de carbone qui permettaient de fabriquer un avion qui faisait 72 mètres d'envergure, donc plus grand qu'un jumbo jet, avec le poids d'une voiture familiale. Mais jamais l'aviation conventionnelle aurait pensé que c'était possible. Et puis, l'autre exemple aussi. Les fabricants d'avions m'ont dit on ne pourra jamais faire voler un avion avec de l'énergie solaire parce que le soleil ne produit pas assez d'énergie pour faire voler l'avion. Et ça, c'est la mentalité actuelle, c'est le paradigme. On produit de plus en plus. Alors que la rupture de paradigme, c'est de dire si le soleil ne donne pas assez d'énergie pour un avion conventionnel, on va fabriquer un avion qui est tellement efficient que le peu d'énergie donné par le soleil va suffire. Et Solar Impulse, c'est un avion efficient. C'est pour ça qu'il était si léger, qu'il avait une envergure qui volait lentement. Alors, c'est vrai, le défaut, c'est qu'il y avait une seule personne à bord, très sensible aux turbulences, etc. Mais au moins, on a réussi.
Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et quand je vous ai posé la question initialement, j'avais plutôt en tête si vous, à titre personnel, vous aviez dû changer de paradigme, peut-être que initialement, vous ne pensiez pas que c'était possible vous-même. Et en fait, tout ça me fait penser que dans ce que vous dites, finalement, l'homme, au sens l'homme avec un grand H ou la femme, on a souvent, comme vous le disiez, des croyances et c'est très, très difficile d'en changer. C'est très difficile de prendre conscience aussi que ce sont des croyances. Je voulais vous demander comment est-ce que, en tant qu'être humain, en tant que personne, on peut essayer de progresser de telle sorte qu'on va justement se rendre compte, tout simplement, qu'on a ce filtre dont vous parlez. Parce que vous, j'ai l'impression que vous en avez vraiment cette pleine conscience. En tout cas, pas forcément tous les jours, mais vous essayez d'avoir cette conscience. En permanence, moi, je me dis, bah là, je vais me dire que c'est impossible, ou là, je vais me dire que c'est trop difficile, ou je le vois, je le rapproche au monde entrepreneurial. On peut se dire qu'on a des contraintes qui ne peuvent pas être surmontées. Et pourtant, vous êtes l'exemple frappant qui montre qu'on peut surmonter ces contraintes et on peut, comme vous dites, changer de paradigme, créer quelque chose de complètement nouveau, si jamais, tout simplement, on va repenser les choses différemment. Et donc, ma question, elle est peut-être très difficile, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais comment est-ce que vous, à titre personnel, Bertrand Piccard, est-ce que vous arrivez à vous dire, non, là, en fait, je vais essayer de prendre le problème différemment. En somme, comment est-ce que vous arrivez à être créatif?
En analysant ce que je pense et en me demandant où m'amènerait la vie si je pensais autrement.
Alors, attendez, je veux bien que vous le répétiez, parce que j'ai eu plus passion d'avoir.
Je vais répéter exactement comme ça. En analysant ce que je pense et en examinant où m'amènerait la vie si je pensais autrement. Vous savez, ça, c'est mon expérience de pilote de ballon. Dans un ballon, quand vous lâchez du lest, vous changez d'altitude et ça vous permet de passer à travers toutes les couches météorologiques l'une après l'autre et chacune a une autre direction et une autre vitesse. Donc, quand vous faites ça à travers toute l'atmosphère, eh bien, vous avez une vision absolument fiable du futur. Vous savez exactement pour quelle altitude vous aurez quelle direction, en trois dimensions. Et dans la vie, si vous lâchez vos croyances, vos certitudes, vos habitudes, vos dogmes et vos paradigmes, comme du lest, ben vous allez passer à travers différentes couches, différentes influences, différentes visions du monde qui toutes vous amèneront dans une autre direction. Et vous allez examiner chaque fois, pour chaque croyance que vous lâchez, chaque nouvelle manière de penser que vous acquérez, vous regardez dans quelle direction vous amène la vie. Et parfois, ça va être super mauvais. Vous pouvez vous dire, mais ok, maintenant, au niveau social, comment est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais accaparer le plus de richesses, je vais me comporter en égoïste, je vais amasser une grosse fortune et je vivrai comme j'ai envie de vivre, replié sur moi-même. Ben, vous regardez, qu'est-ce que ça va donner, cette manière-là de penser dans votre vie, dans votre vie sociale? Ben, vous allez voir que très rapidement, ça vous coupe de tous les autres, vous allez passer votre temps avec des systèmes d'alarme pour protéger ce que vous avez acquis, vous allez finir comme à Sao Paulo dans le ghetto des riches, où c'est les riches qui sont enfermés dans des barbelés avec des miradors et des projecteurs pour les protéger des pauvres. Si c'est ça que vous voulez, ben vous allez faire comme ça. Mais peut-être que vous allez au contraire prendre une autre altitude, vous allez vous dire, moi je vais utiliser ce que j'ai pour faire du bien, de manière altruiste, je vais créer des emplois, je vais faire une entreprise avec un impact positif pour la société et pour l'environnement, et ça va m'amener dans une direction complètement différente. Mais il faut vraiment comprendre que dans la vie, vous irez dans la direction qui correspond à ce que vous pensez et à ce que vous faites. Et ça, c'est votre liberté. La liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire, mais la liberté, c'est de pouvoir tout penser et organiser la trajectoire de votre existence en fonction de ce que vous pensez et de comment vous le pensez. Et ça, c'est une immense liberté. C'est une immense liberté qu'on peut acquérir. Et pour ça, il faut comprendre que ce qu'on a appris à penser est une prison. Oui. Même si c'est bien, il y a des tas de choses qu'on apprend qui sont bien, mais alors on les garde parce qu'on les a apprises, parce qu'on a ce carcan. Alors on dit bonjour monsieur, bonjour madame très poliment, parce qu'on a appris qu'il faut faire comme ça. Mais c'est une prison. C'est pas parce qu'on a appris qu'on doit le faire. C'est parce que spontanément, on se dit que si on dit bonjour monsieur et bonjour madame, on fera plus de bien que si on envoie les gens paître.
Ouais.
si on est altruiste, si on est compassionnel, si on a du respect, il faut que ça vienne de nous, de notre propre expérience, plutôt que d'une éducation moralisatrice qui nous enferme dans un carcan de bienséance.
C'est passionnant en fait, et je fais le parallèle avec le métier de pilote que vous avez, qui est de piloter. J'ai l'impression que vous dites de piloter ses pensées, puisque ça va vous amener, vos pensées vont vous amener dans la direction où vous voulez aller. Là-dessus, j'avais une question pour vous, Bertrand.
On pilote sa vie, mais le tableau de bord, c'est toutes les pensées différentes et les manières d'agir qui doivent se coordonner pour que les aiguilles nous donnent le bon cap.
J'avais une question pratique. Peut-être que vous avez un exercice à nous recommander, ou peut-être une petite astuce pour justement essayer d'aller contre nos propres croyances ou notre propre bagage mental. Notamment, je trouve ça très parlant, cet exemple de on a appris à saluer les gens, ou on a appris des choses quand on était enfant, et finalement, on pourrait se dire pourquoi est-ce que je ne le remettrais pas en cause? Finalement, ça n'est qu'une croyance ou ça n'est qu'une habitude. Est-ce que vous avez peut-être, vous, des techniques, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permet de en fait questionner ces croyances et de vous en rendre compte pour justement, en tout cas, potentiellement les remettre en cause. Peut-être qu'elles sont bonnes et que vous voulez les garder, mais en tout cas, ça peut être un exercice de contrôle personnel, de se dire ça, c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, ma question au fond, c'est comment est-ce que vous arrivez concrètement à vous dire c'est une croyance apprise et j'ai envie de tester autre chose.
Alors, je pense que l'exercice ultime, c'est d'écouter des gens qui disent exactement le contraire de ce que vous pensez et de se dire. Et s'il avait raison? C'est formidable en France parce que le débat politique est tellement clivé que vous êtes sûr de trouver très rapidement quelqu'un qui pense le contraire de ce que vous pensez. Et là, vous l'écoutez et vous entrez dans son monde, vous entrez dans sa manière de penser et vous vous dites, qu'est-ce que ma vie serait si j'appliquais ce qu'il prône? Et vous verrez que même si vous n'allez pas tout garder, je suis sûr que vous pourrez en garder une partie, parce qu'on n'a jamais soi-même le monopole de la vérité. Que l'autre personne soit à gauche, à droite, au centre, d'une autre religion, d'une autre profession, etc., il aura forcément quelque chose à vous apprendre. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'entrer dans ce nouveau monde en se disant « je peux penser autrement ». Alors évidemment, si vous tombez sur un négationniste anti-changement climatique, enfin tout, la caricature du fasciste, vous allez vous dire « écoutez, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'écoute pour comprendre son monde, et ensuite, consciemment, je n'accepte pas ». Ouais. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui est dans un complètement autre domaine que le vôtre et il va vous faire changer d'avis. Il va vous montrer une autre vision de la vie que vous n'aviez pas avant, sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, sur le plan religieux. C'est parfois plus facile qu'au niveau politique d'avoir des nuances qu'on va peut-être acquérir. Donc moi, chaque fois que je peux lire les arguments ou écouter les arguments de gens qui pensent autrement que moi, je les écoute en me disant « je ne vais pas rouspéter, je ne vais pas interrompre, je ne vais pas nier tout ça avant d'avoir essayé de tout comprendre ». Et ça, c'est un espèce de fitness du cœur, peut-être encore plus que de l'esprit, qui est extrêmement intéressant. À la fin, je peux dire « je ne retiens pas ça, je garde ce que j'avais avant parce que ça me convient mieux », mais pas toujours.
Il vous est arrivé de changer d'avis profondément sur quelque chose ?
Ah oui, mais tout le temps. Mais
racontez-moi ça.
Non, mais en fait, c'est amusant parce que je pense à beaucoup de choses, je crois à beaucoup de choses, etc. Mais pas de manière rigide. Et chaque fois qu'on me pose une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non, ou chaque fois que je dois décider quelque chose, j'essaye dans la mesure du possible de m'arrêter un instant et me dire « ok, jusqu'à maintenant, j'aurais répondu oui ou j'aurais répondu non, mais enfin, j'aurais répondu d'une certaine manière. Comment est-ce que je peux répondre autrement ?» Et très souvent, je vois que ma réponse spontanée, elle est fausse. Ma réponse spontanée, elle vient pas de mon intuition. Ma réponse spontanée, elle vient de mon conditionnement. C'est automatique. Et si je m'arrête et que je me dis « mais peut-être ça pourrait être l'inverse », mais à ce moment-là, je vois que peut-être que l'inverse est beaucoup plus intuitif. L'inverse, c'est ce qui va ressortir si j'enlève la couche de protection que j'ai autour de moi, la couche de certitude et d'habitude et de routine.
Bertrand, tout ça, c'est passionnant et c'est aussi ce qui fait qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes certes un aventurier des temps modernes, mais aussi quelqu'un, je pense, donc un psychiatre de formation et quelqu'un qui s'intéresse, je pense, à la philosophie, à l'esprit. Je voulais du coup revenir en arrière, si ça vous va, et revenir au commencement pour comprendre d'où vient cette croisée des chemins qui est si intéressante et qui fait de vous un personnage, je trouve, assez unique. Est-ce que vous pourriez nous parler tout simplement de votre enfance, m'expliquer où est-ce que vous êtes né, comment vous étiez petit, comment étaient vos parents aussi, pour qu'on essaye de comprendre justement qu'est-ce qui a tissé, je ne sais pas si ça vient de là, mais qu'est-ce qui a tissé la personne que vous êtes aujourd'hui ?
Je suis né dans une lignée paternelle d'exploration du monde extérieur et dans une lignée maternelle d'exploration du monde intérieur. Et pendant longtemps...
Vous étiez donc prédestiné.
Non, mais pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir l'un ou l'autre. Et j'ai vu qu'en fait, on pouvait très bien concilier les deux. Mon père, explorateur, qui a fait la première plongée dans la fosse des Mariannes, au point le plus profond des océans, qui a construit ensuite plusieurs sous-marins. Mon grand-père, qui était le premier homme dans la stratosphère, le premier à avoir la courbure de la Terre de ses propres yeux. Donc, toute une histoire familiale captivante pour un enfant. Moi, je me rappelle que j'ai été voir le film 20 milieux sous les mers de Walt Disney sur le livre de Jules Verne. Puis, à un moment donné, je me suis retourné vers mon père. J'avais 7 ans. J'ai tourné la tête vers mon père. Je me rappelle très bien de la scène. Et je me suis dit, moi, j'ai un capitaine Nemo à la maison.
À côté
et c'est
de
mon
moi.
Père. Et j'étais super fier et super content. Et puis, c'est ça qui m'a amené à faire de l'Delta, du vol acrobatique, de l'ULM, du ballon, autour du monde en ballon avec Breitling Orbiter, le tour du monde en avion solaire avec Solar Impulse, c'est cette partie-là.
Et puis, mais juste si je me permets de vous interrompre, Bertrand, cette partie-là, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous portait. C'était l'appel de la liberté, c'était la prise de risque, c'était affronter ses peurs, c'était le challenge, c'était juste l'exemple de votre père. Parce que, enfin, on peut avoir un papa qui est aventurier, mais de là à soi-même, je crois savoir que vous avez très très tôt commencé à faire du vol libre. Voilà, tout ce que vous expliquez à l'instant, n'importe qui ne l'aurait pas fait, si vous voulez. Vous avez eu une envie quand même, il y a eu une passion, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez franchi le pas.
Je voyais des gens qui avaient une vie fantastiquement excitante et intéressante. Et ça, c'était aussi les astronautes que j'ai rencontrés quand j'étais enfant. La plupart des astronautes du programme spatial américain, si vous avez vu le film « L'étoffe des héros », c'est pilotes d'essai qui partaient dans des capsules minuscules dans l'espace, et puis que j'ai rencontré, qui discutait avec moi, qui m'expliquait ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc. C'était juste la vie que je voulais avoir. Mmh. Je me suis dit, mais il n'y a plus de place pour la routine quand on peut avoir une vie aussi excitante.
Je comprends. Je vous ai interrompu et du coup, vous alliez peut-être me parler de votre maman, j'imagine.
Oui, oui, parce que de l'autre côté, il y avait ma mère qui était passionnée pour les philosophies orientales, la spiritualité, la psychologie. Et c'est pour ça que je suis devenu psychiatre aussi, parce que l'exploration du monde intérieur me captivait. Qu'est-ce qui fait qu'on vit sur Terre ? D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que Dieu, à quoi ça sert s'il n'y a pas de Dieu, enfin, toutes ces questions-là. Puis j'adorais quand ma mère essayait de répondre, puis parfois elle me disait « je ne sais pas ». Parce que quand on dit « je ne sais pas » à un enfant, c'est une extraordinaire stimulation pour que l'enfant devienne curieux et se dise « alors moi je vais chercher, moi je vais essayer de comprendre, moi je vais trouver ». Et les parents peuvent transmettre le flambeau comme ça à leurs enfants, en leur montrant qu'il y a encore tout un chemin à défricher. Il ne faut surtout pas dire aux enfants « c'est pas de ton âge, tu verras plus tard » de poser des questions, etc. Parce que là, on tue la curiosité, on empêche l'enfant de devenir un pionnier ou un explorateur. Alors,
elle a fait du bon travail.
J'ai toujours envie de comprendre plus, de faire mieux, de faire autrement, de faire différemment, d'aller plus loin, de remettre en question le statu quo. Et je pense que moi, c'est devenu ma définition de l'explorateur. L'explorateur, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il voit. Et il veut plus, mieux, autrement, différemment. Et c'est valable dans tous les domaines. On ne peut pas avoir des dogmes religieux qui nous empêchent de chercher davantage. On ne peut pas se contenter d'une religion qui nous donne des réponses toutes faites. Il n'y a que les êtres humains qui peuvent donner des réponses toutes faites. Au niveau de la spiritualité, ce n'est pas des réponses toutes faites. La spiritualité, c'est beaucoup plus une interrogation sans réponse. C'est le fait de poser la question qui ouvre la conscience. Au moment où on a une réponse toute faite, ça ferme la conscience. On se contente de ce qu'on a, de ce qu'on entend. Et moi, je suis pour la recherche, pour l'ouverture à l'inconnu. L'inconnu, les doutes, les points d'interrogation, c'est des fantastiques stimuli pour notre créativité, pour notre performance, pour notre curiosité. Ça nous ouvre à la vie, et forcément ça va nous rendre beaucoup plus tolérants, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus compassionnels, beaucoup plus respectueux vis-à-vis de tous ceux qui pensent autrement, parce qu'on se dit tiens, ils vont peut-être pouvoir nous apprendre quelque chose.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous évoquez souvent le mot spiritualité et on le sent. Et ce qui est drôle, c'est que pour autant le mot spiritualité, je trouve à l'heure actuelle, alors revient un petit peu à la mode avec notamment le bouddhisme, etc., qui reviennent, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on en parle de plus en plus, alors que pendant longtemps, en tout cas en France, pays des Lumières, le terme de spiritualité n'a pas été en odeur de sainteté, justement. Et donc, je trouvais que c'était intéressant parce que la manière dont vous en parlez, je trouve, montre que c'est quelque chose d'autre et ce n'est pas du tout pour faire du prosélytisme d'une religion ou d'une autre, mais c'est autre chose, justement. C'est de dire, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de spiritualité, c'est-à-dire d'un éveil au monde extérieur. Et donc, je voulais... j'avais pas forcément prévu de vous poser cette question, mais je voulais juste comprendre pour vous finalement ce lien entre la spiritualité, entre tout le travail que vous avez fait en tant que psychiatre, quel est-il ? C'est-à-dire que c'est peut-être aussi cette philosophie orientale qui vous a guidé et qui vous a donné cette envie de l'exploration intérieure. En gros, ma question, c'est pour vous, c'est quoi la spiritualité ? Parce que vous en parlez, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est un mot flou qui ne veut pas dire grand-chose et dont ils se méfient en plus.
Vous avez parlé des Lumières. Et le siècle des Lumières s'est débarrassé de l'obscurantisme religieux, cette manière d'écraser les gens dans l'ignorance pour pouvoir les contrôler, les diriger, les posséder, les exploiter, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que le siècle des Lumières a enlevé également la spiritualité, qui n'avait pas forcément grand-chose à voir avec la religion. Et la spiritualité, c'est pas forcément orientale. Il y a une spiritualité chrétienne, d'origine essentielle, je dirais. Qui a été complètement dénaturé ensuite par l'Église. Mais je crois qu'il faut bien voir que dans tous les grands mouvements spirituels, il y a un message essentiel à la base, et que ce mouvement est ensuite repris et travesti par une religion qui est en fait humaine. Donc la religion met des mots humains sur une spiritualité qui est transcendante. Par conséquent, il y a de temps en temps des religieux qui ont une spiritualité, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir entre les deux. Alors, si on veut, écoutez, je vais me lancer pour définir ma propre compréhension.
Il n'y a pas de bonne réponse, c'est la vôtre.
il y a un continuum entre la matière la plus dense et l'énergie la plus subtile. Hein, c'est une question de vibration. Et ça, c'est simplement des lois de la physique. Si la vibration devient de moins en moins rapide, de plus en plus dense, on arrive dans de la matière, et quand ça vibre de manière plus ou plus subtile, vous êtes dans de l'énergie qui est dématérialisée. L'être humain, je pense, est un peu au milieu, avec un peu d'énergie, un peu de matière. À ce moment-là, vous avez un choix que vous faites. Vous pouvez aller vers l'enracinement dans une énergie de plus en plus dense et de plus en plus matérielle. C'est l'égoïsme, la vengeance, la violence, l'attachement à la possession, etc. Ou bien vous pouvez aller vers une énergie plus subtile qui est celle de la bonté, du respect, de la compassion, de la sagesse, de l'altruisme, etc. Et ça vous amènera dans une énergie de plus haute qualité. Et finalement, c'est ce choix-là qu'on peut faire. Vous faites le choix spirituel, qui est celui d'aller vers une énergie plus subtile, ou vous faites le choix matériel d'aller dans une énergie plus dense et plus matérialiste. Et si vous remarquez, l'Église a souvent fait le choix de la matérialité avec des richesses, avec un apparat, avec une possession de biens matériels, etc. Et le siècle des Lumières a réagi la contre, mais le siècle des Lumières aurait dû promouvoir beaucoup plus ce côté spirituel et celui d'ouverture à une transcendance qui n'est pas dictée par l'Église et par la religion.
Hyper intéressant. Bon, je nous ai complètement dévoyé, mais c'est entièrement de ma faute, mais je trouvais ça trop intéressant comme question de votre parcours. Donc, suite à cette enfance entre les deux explorations intérieures et extérieures, vous décidez de plonger dans le monde de la psychiatrie. Vous nous avez expliqué pourquoi. Je voulais vous demander, cette période d'études et ensuite d'exercice de votre métier, notamment, je crois que vous avez travaillé surtout sur les enfants, est-ce qu'elle vous a appris particulièrement quelque chose sur vous-même ? Est-ce que finalement, on se dit tout le temps, un psychiatre, voilà, c'est quelqu'un qui va soigner, mais est-ce que ça n'est pas aussi un moyen pour soi de progresser, d'apprendre sur son fort intérieur ?
Alors complètement. Mon parcours d'étudiant en médecine m'a confronté au dogme du système. La première fois que j'ai levé la main dans un auditoire pour demander ce qu'il fallait faire avec la patiente que j'avais vue la veille aux urgences et qui avait fait une tentative de suicide parce qu'elle comprenait pas le sens de sa vie. On m'a répondu, monsieur, vous êtes là ici pour faire de la psychiatrie, pas de la spiritualité ou de la religion. Quelqu'un comme ça, il faut l'envoyer chez le curé ou chez le pasteur et pas chez le psychiatre. Je me suis dit, moi, je suis pas fait pour ce monde-là. Je suis pas fait pour ce monde qui clive l'esprit et le psychisme, et je suis parti dans tout ce qui était hérétique.
Ça m'étonne pas de vous.
Alors, j'ai fait mes études, j'ai fait une thèse de médecine qui a été primée par la faculté de médecine.
Donc, qui était à quel sujet ?
Sur la pédagogie de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on apprend sur le plan psychologique, philosophique et spirituel à travers des drames terribles dans ma vie. Et ma thèse a été primée, donc je suis un vrai médecin, un vrai psychiatre, mais j'ai aussi fait en plus tout ce qui était hérétique. J'ai fait une formation d'acupuncture de l'oreille, de médecine ayurvédique, de médecine traditionnelle chinoise, des initiations, j'ai pas été jusqu'au bout, mais assez pour pouvoir enrichir ma pratique de psychiatre avec toutes ces approches-là, et puis surtout l'hypnose. À l'époque, il y avait eu, pendant mes études, zéro sur l'hypnose, et dans la formation post-graduée, 8 heures en 4 ans. Et ouais. Le gars s'est presque excusé de venir nous en parler. Donc, c'est clair que je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser, et j'ai fait toute une formation d'hypnose approfondie, j'ai enseigné l'hypnose, j'ai supervisé des collègues qui faisaient de l'hypnose. Et ça, pour moi, c'était la révélation, parce qu'avec l'hypnose, ça me permettait de rejoindre la spiritualité et la thérapie. Et jamais j'avais trouvé le moyen de faire les deux. Ceux qui faisaient de l'hypnose, ceux qui étaient dans le développement spirituel me disaient « on ne peut pas mêler ça à la thérapie » et ceux qui étaient dans la thérapie me disaient « on ne peut pas toucher la spiritualité ». Et avec l'hypnose, vous pouvez très bien faire les deux. Avec l'hypnose, vous permettez aux gens d'aller au fond d'eux-mêmes, dans le développement de leur conscience d'exister, dans le développement de leur relation à tout leur monde intérieur. Et c'est absolument fascinant ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, je veux dire, c'est ça qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur l'être humain et que j'ai pu combiner ensuite à toutes mes expériences d'explorateur en utilisant ce monde de l'hypnose.
J'imagine, et justement, je voulais vous parler de Solar Impulse, bien sûr, et toutes vos expériences et toutes ces explorations, puisque vous devenez donc pionnier sur le vol libre, etc. Et vous devenez donc surtout fou avec ce projet complètement différent, ce changement de paradigme, comme on disait au début, qu'est Solar Impulse, où vous décidez de prouver au monde qu'on peut voler longtemps, très longtemps, sans fuel, qu'on peut voler de manière propre. Et c'est vrai que je voulais vous demander, puisque je n'ai pas trouvé cette information en faisant mes recherches sur vous, à quel moment vous est vraiment venue cette idée et combien de temps est-ce que vous avez maturé le projet avant de réussir réellement à le mettre en place? Parce que je peux imaginer qu'entre l'idée et le projet, là c'est l'entrepreneur qui parle, il y a un monde dans ce genre de cas. Et donc ça m'intéressait vraiment de savoir, finalement, l'homme Bertrand Piccard, quand il commence à avoir ce rêve, quel est le cheminement qui se passe intérieur et extérieur pour arriver à en faire une réalité?
En fait, c'est venu de mon tour du monde en ballon avec Breitling Orbiter. J'ai fait le premier tour du monde sans escale, c'était 3 semaines en vol, c'était le vol le plus long en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation, mais c'était la limite totale de ce que je pouvais accomplir, parce que sur 3700 kilos de propane liquide, il restait 40 kilos à l'atterrissage. Donc, je me suis dit, c'est magnifique, mais on peut pas aller plus loin, si on casse pas le paradigme. Et le paradigme, là, c'était le carburant. C'est le carburant qui fait qu'on peut pas aller plus loin, puisqu'on part avec une quantité finie et définie de gaz. Donc, je me suis demandé comment on pouvait refaire ça, mais sans carburant. C'est-à-dire sans avoir besoin de ravitailler, sans avoir besoin de s'arrêter parce qu'on a plus d'énergie. Et là, j'ai commencé à rêver d'un avion qui me permettrait de voler perpétuellement, captant l'énergie du soleil pour faire tourner des moteurs électriques, stocker cette énergie dans des batteries pendant la journée pour casser un autre paradigme, qui est celui que l'énergie solaire ne marche que le jour, voler la nuit à l'énergie solaire emmagasinée la journée précédente, atteindre le lever de soleil suivant, et puis si vous arrivez à faire un cycle complet, vous pouvez faire autant de cycles que vous voulez. Alors, il a fallu me confronter à tous ceux qui me disaient que c'était impossible, à des budgets importants parce que c'était des grosses équipes avec des salaires à payer chaque mois, beaucoup de recherche, beaucoup de développement, beaucoup de sous-traitants, beaucoup de partenaires technologiques. Et puis, j'ai été aidé par des entreprises qui avaient un esprit de pionnier extraordinaire. des entreprises qui se sont dit, on ne sait pas si c'est possible, mais on va essayer de faire réussir ce projet. Donc, c'était, j'ai commencé à rêver à ça en 99, juste après le tour du monde de Mercure en orbitaire. J'ai commencé à y travailler en 2002, j'ai lancé le projet en 2003. Le premier avion a volé en 2009 et le tour du monde s'est fait entre 2015 et 2016.
Ça prend la patience.
Ça a coûté 4 à 5 fois plus cher que prévu, ça a été 2 fois plus long que prévu, ça a été une source de frustration et de catastrophes qui ont été ponctuées de moments merveilleux et de joie sublime. Mais on revient à quelque chose que j'avais entendu des grands entrepreneurs qui disaient, si j'avais su que ce serait aussi compliqué, j'aurais peut-être jamais lancé mon histoire.
C'est sûr.
Là, c'est un petit peu comme ça aussi. Je crois que pour être entrepreneur, il faut une certaine naïveté. Il faut visualiser le but final, mais ne pas comprendre le chemin ou ne pas comprendre la difficulté du chemin pour arriver à ce but final. Et puis une fois qu'on l'a annoncé, eh ben, on a franchi le Rubicon. On est obligé d'y aller, on ne peut plus faire marche arrière.
Oui, il y a cette fameuse phrase, je crois, de la Torah qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Oui, » Et c'est un peu ça.
C'est Mark Twain.
Ah, c'est Mark Twain. Ah, c'est très bien.
Ah, vous avez voilà. C'était dans la Torah.
Ben, il me semblait, mais c'était Mark Twain.
Je vais approfondir parce que peut-être que Mark Twain l'a piqué à la Torah. Moi, je ne veux pas qu'on croie que j'ai piqué la phrase à Mark Twain, mais si lui l'a piqué aussi...
Dans ce cas, ça va. Bertrand, vous m'avez parlé, vous m'avez un peu fait saliver en me parlant des moments merveilleux et des moments difficiles. Globalement, on ne va pas pouvoir parler de toute cette période, évidemment, qui a été trop longue, mais si vous aviez peut-être quelques moments particulièrement marquants dans tout ce projet, ça peut être d'ailleurs en amont, en aval du projet, mais marquants à la fois... merveilleux, des moments qui vous ont étonné, qui vous ont transformé, qui ont été voilà, enfin une source d'émerveillement pour vous, ou à l'inverse, évidemment un moment particulièrement dur, un challenge peut-être que vous n'aviez pas anticipé. Quel serait-il?
Le moment où le pilote d'essai m'a dit que j'étais pas un assez bon pilote pour voler sur un avion aussi compliqué que Solar Impulse, et que si je ne renonçais pas à voler là-dessus, il allait dire à ma femme que j'allais me tuer et qu'il allait démissionner de son poste. Ça, c'est des moments où vous avez votre monde qui s'écroule. Parce qu'évidemment, si j'ai lancé ce projet, c'était pour piloter aussi cet avion.
Bah oui.
Là, ça m'a vraiment effondré, détruit, avant de me dire que peut-être qu'il avait raison.
Ouais.
De me dire, en fait, ma première réaction, c'est ce type ne me connaît pas bien, bien sûr que j'en suis capable. La deuxième réaction, une fois qu'on change d'altitude, qu'on lâche du lest, qu'on remet en question, qu'on écoute son intuition, c'est de me dire, OK, il a raison. Il a raison, je ne suis pas un assez bon pilote. Cet avion est beaucoup trop difficile, avec 72 mètres d'envergure, très faible vitesse, très faible poids. À chaque turbulence, il risque de partir en vrille ou de décrocher. Donc, on fait quoi? Ou bien j'accepte de ne pas piloter, parce qu'il a raison. Ou bien il a raison que je ne suis pas un assez bon pilote, donc j'apprends à devenir un bon pilote. Bon, c'est vraiment ça que j'ai fait. Je ne veux pas baisser les bras. Et pendant une année, j'ai fait que de voler à chaque moment libre, sur chaque avion, chaque hélicoptère, chaque machine, chaque planeur que j'ai pu trouver sur mon chemin. Et puis après un an, je suis retourné, puis je lui ai dit « Maintenant, viens voler avec moi, puis je vais te montrer ce que je fais. » Et puis, il est redescendu du vol avec moi en disant « Mais c'est un autre Bertrand, je ne te connaissais pas comme ça. » T'as tellement progressé, c'est évident que maintenant tu es prêt pour le faire. Et puis j'ai commencé à voler sur Solar Impulse. Mais c'est vrai que c'était un moment de remise en question et de crise qui était terrible pour moi. Et puis il y a eu des moments plus directement gratifiants. Quand j'étais au milieu du Pacifique, en liaison satellite directe avec le secrétaire général des Nations Unies, au siège des Nations Unies à New York pendant la signature des accords de Paris, et que j'ai pu lui passer ce message en direct devant toute la salle pleine de chefs d'État en disant que les technologies propres aujourd'hui sont utilisables, sont mûres, qu'elles sont rentables, qu'on peut se donner des buts environnementaux extrêmement importants parce que les solutions technologiques existent et que Solar Impulse n'en est qu'une démonstration spectaculaire, mais qu'il y en a énormément partout. Et puis des moments plus intimement beau, la, pour moi dans mon cockpit, la lune fraise. Les gens savent peut-être pas ce que c'est que la lune fraise. Moi, je ne sais pas. La lune fraise,
moi, je sais pas.
C'est la pleine lune qui correspond au solstice d'été. Le 21 juin 2016, il y en a une. La précédente, c'était 69 ans plus tôt. C'est des moments incroyables. La lune est beaucoup plus grosse. Elle est rouge. Et quand elle se lève, vous avez l'impression qu'il y a un deuxième soleil qui arrive. Et moi, j'étais en vol en train de traverser l'Atlantique sur Solar Impulse. J'avais décollé de New York et j'avais cette ligne rouge sur l'océan qui me montrait la direction de l'Europe. C'était juste magique. Et mon vol a duré 3 jours et 3 nuits. Et chaque jour, j'avais encore cette lune. Alors évidemment, elle est un peu moins pleine le lendemain et le surlendemain, mais elle est toujours là. Elle me montrait toujours le chemin. Elle avait toujours une couleur incroyable. Et ça, c'est des moments où je me suis dit, mais je veux cristalliser en moi ces instants parce que je veux pas les oublier. Je veux que ça reste vivant en permanence en moi. Et j'ai réussi vraiment. Ce vol de la traversée de l'Atlantique, je me rappelle, mais chaque instant et chaque pensée, chaque sensation.
Peut-être justement, Bertrand, une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe pendant un vol comme ça, pour qu'on arrive à se projeter, à se mettre un peu dans le siège du pilote, pour comprendre concrètement qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes à l'étroit? Est-ce qu'au contraire, est-ce que vous êtes tout le temps occupé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Est-ce que vous devez être vigilant en permanence? Est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer avec vos mots concrètement quelles sont vos actions durant typiquement la traversée de l'Atlantique?
Alors, vous imaginez un cockpit qui est très petit. Vous pouvez vous coucher, mais vous pouvez pas vous lever. Vous êtes couché ou assis. Vous êtes seul à bord. C'est ou vous ou votre coéquipier, dans le cas André Borchberg, qui est dans l'avion. Quand moi j'étais en vol, lui était au sol. Quand lui volait, moi j'étais au sol. Donc vous sentez déjà que c'est un moment privilégié. C'est vous qui pilotez. Vous êtes dans ce petit cockpit. Vous volez grâce au soleil. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de carburant. Vous avez l'impression que vous pouvez voler aussi.
Il n'y a pas de bruit, on n'entend pas.
Il y a un petit soufflement.
On n'entend pas grand-chose.
Très petit. Le carbone de la structure fait parfois un peu de bruit quand il y a des turbulences, mais le moteur, c'est un petit sifflement qui est imperceptible. Et vous vous dites que vous êtes dans le futur, d'abord. Vous dites que c'est futuriste, c'est de la science-fiction, c'est irréel. Puis en fait, vous comprenez que c'est les technologies d'aujourd'hui qui vous permettent de faire ça aujourd'hui. Et là, vous comprenez à quel point le reste du monde est dans le passé, avec ces technologies polluantes qui dépendent d'énergie fossile, etc. Donc déjà, vous avez l'impression que vous êtes à la pointe de la technologie, que vous êtes dans un avion expérimental, mais que ces mêmes technologies peuvent être appliquées partout. Et vous sentez que vous avez une mission, une vraie mission de montrer à quel point ces technologies sont indispensables pour l'avenir de l'humanité. Mais indépendamment de ces, oui, alors la responsabilité est écrasante parce que vous dites si je me plante pour quoi que ce soit comme raison, le message tombe à l'eau.
Ce sera un prétexte pour.
Oui, et même si c'est à cause de météorologie mauvaise que vous pouvez pas réussir votre vol, vous savez que tout le monde va vous tomber dessus en disant ouais vos technologies ça vaut rien, vos clean tech, vos énergies renouvelables, on voit bien les limites, etc. Donc, il y a une très grosse responsabilité. Par moments, c'est écrasant. Et puis, vous avez le centre de contrôle, là, qui était à Monaco, avec des ingénieurs qui ont en permanence une angoisse que vous fassiez une erreur en tant que pilote. Et vous êtes aimé et accompagné par cette équipe, mais en même temps complètement infantilisé.
Ouais.
Ils vous disent…
Ils vous parlent tout le temps dans l'oreillette.
À gauche, à quel moment tourner à droite, c'est… Vous avez l'impression d'être vraiment infantilisé, mais parce qu'ils ont des bonnes intentions, ils veulent surtout pas que vous ayez un accident. Et puis
on est d'accord qu'on sur ce genre d'appareil, vous avez pas de pilote automatique, tout se fait
ou si c'est automatique qui ne marche que quand il y a aucune turbulence. Dès qu'il y a des turbulences, vous devez reprendre en manuel, il y a les alarmes qui sonnent, etc. Donc vous avez la permission de dormir pendant la deuxième partie de la nuit, quand il n'y a pas de masque à oxygène, que vous êtes à plus basse altitude, vous pouvez dormir par tranche de 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, il y a une alarme qui sonne pour pouvoir contrôler que tout aille bien. Et puis, en dehors de tout ça, vous arrivez à prendre des moments pour vous extasier sur la beauté de la nature et la chance que vous avez d'être là. Et il y a des levées de soleil, et il y a des couchers de soleil, et il y a des levées de lune fraise, et puis vous avez des nuages qui se créent pendant la journée, hein, qui montent. Il n'y a pas un nuage le matin, puis vous avez tous ces cumulus qui montent, et puis quand le soleil se couche, tous ces cumulus qui redescendent comme ça, comme des soufflets. Vous avez la vie du monde minéral. Et vous voyez que le monde minéral vit aussi, et vous êtes pris dans ces immenses cycles comme ça de la nature. C'est juste magique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à dégager assez de vigilance pour pouvoir être attentif à tout ça. Donc, moi, peut-être que j'ai été aidé par le fait que j'étais pas pilote militaire, j'étais pas pilote d'essai. Donc, j'arrivais un peu avec ma naïveté spontanée et j'ai pu profiter de ça. Alors que peut-être que des pilotes beaucoup plus expérimentés auraient été ravis d'aligner leurs aiguilles, tous leurs paramètres de manière très professionnelle. Moi, je volais certainement de manière moins stable qu'un pilote professionnel, mais j'ai eu un plaisir immense à le faire.
Parce que vous arriviez à être dans l'instant présent et pas vous projeter sur les risques, les problèmes, peut-être les peurs aussi, évidemment.
Et c'est là que j'ai vu à quel point la confiance était plus importante que le courage. Quand j'étais de nuit à des milliers de kilomètres de n'importe quelle possibilité d'être secouru, tout seul dans le cockpit avec cet avion expérimental, je me sentais mieux que dans n'importe quel autre moment de ma vie. Et c'est quand même assez paradoxal. Et je me suis demandé pourquoi, et je retrouvais cette même impression de mes vols en ballon sur les océans, où j'étais aussi perdu au milieu de nulle part. Et quand on est coupé de ses habitudes, de ses certitudes, de tous ses points de référence, on est obligé d'être beaucoup plus conscient. Et on est conscient de soi-même dans l'instant, on habite son corps, et on va chercher à l'intérieur de soi toutes les compétences qu'il faut pour réussir. Et quand on voit toutes les compétences qu'on a en soi et qui sont normalement cachées derrière tous les automatismes et toutes les certitudes et les habitudes, ben ça donne confiance. On se dit, mais en fait, en tant qu'être humain, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ça. Tout ce qu'il faut. Et cette confiance, elle est incroyable. Et il y a tellement de confiance qu'il n'y a plus besoin d'avoir de courage.
Cette confiance, quand même, vous l'aviez acquise aussi parce que je pense que vous aviez sacrément travaillé, que vous connaissiez la machine sur le bout des doigts, que vous étiez un excellent pilote. Mais vous êtes arrivé effectivement à cet état, c'est fou quoi, cet état presque d'apaisement, même dans la difficulté.
Oui. Et puis je pense que c'était aussi extrêmement gratifiant d'arriver enfin à faire ce que je rêvais de faire. Et je me rappelle quand j'ai quitté Hawaï. J'avais la côte nord de Hawaï juste derrière moi et le trafic aérien qui me dit vous pouvez voler jusqu'à San Francisco, le Pacifique est à vous. Et j'avais tout ce Pacifique devant moi. Je me disais, dans 3 jours, j'arrive sur la Californie. Mais c'était un moment extraordinaire. Je me suis dit, mais enfin, j'y suis.
Et puis, il doit y avoir un sentiment quand même. Et ce n'est pas du tout pour... Vous dire quelque chose de négatif, mais j'imagine, moi, en me mettant, si je peux, à votre place, de dire qu'il y a un sentiment aussi quand même de joie, de sentir qu'on est en train de faire quelque chose de complètement différent, de complètement innovant, d'unique. Comme vous disiez, c'est la mission au final, mais c'est de se dire, vous faites quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Et ça, c'est une joie aussi extrêmement forte, j'imagine, de dire, c'est pas uniquement un rêve, on va dire, de gratification personnelle, de faire quelque chose qui me plaît, c'est aussi que je sens que ça a un sens énorme, puisque vous, c'est quand même un projet à ce niveau-là qui est très important.
Ben oui, le sens et toute la responsabilité qu'on a de porter ce message qu'on considère vraiment important sur les technologies propres, sur les énergies renouvelables, etc. Mais il y a encore une autre chose qui est extraordinaire dans ces cas-là, c'est de savoir qu'on est le premier à le faire et qu'il y a tellement de gens qui pensent que c'est impossible. Et quand vous êtes le premier, c'est pas quelque chose qui est là pour gratifier votre ego. Quand vous êtes le premier, vous êtes là pour faire quelque chose où il n'y a aucun benchmark. Personne n'a pu vous donner un conseil. Personne n'a pu vous dire c'est possible ou c'est pas possible. Donc, vous entrez vraiment dans l'inconnu. Le premier à l'Everest, il savait pas si on pouvait y arriver. Le premier au pôle Nord, il savait pas si on pouvait y arriver. Premier dans la stratosphère, premier dans la fosse des Mariannes. Et c'est des gens que j'ai rencontrés et qui savaient pas s'ils allaient réussir. Quand vous montez à l'Everest aujourd'hui, vous savez que si vous ratez, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez fait une bêtise. Ou la météo qui est mauvaise, mais vous savez que c'est possible. Donc, vous ne défrichez plus un chemin. Vous êtes le 5000e qui arrive au sommet. C'est bien pour vous. Vous êtes surmonté vous-même, mais vous n'avez rien montré aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort quand vous faites une première. C'est que vous savez pas si c'est possible. Donc, vous devez tout faire pour réussir. Vous devez aller puiser au fond de vous toutes les compétences qu'il faut. Vous devez mettre en place toutes les technologies qu'il faut, toutes les équipes qu'il faut, toute la créativité qu'il faut, toute la remise en question qu'il faut. Et peut-être que vous allez réussir. Mais au moment où vous réussissez, à partir de là, ben vous avez changé un petit quelque chose dans le monde. Il y a quelque chose de nouveau qui est devenu possible. Et j'avais rencontré tellement de gens qui avaient fait des grandes premières et qui avaient changé quelque chose dans la mentalité de l'humanité. Ils avaient montré que l'impossible n'est pas aussi impossible que ce qu'on croit. Et avec le tour du monde en ballon, ben c'était cette même expérience. Avec SolarRipple, c'était cette même expérience. Accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait, montrer que c'est possible, et ensuite dire aux autres, ben maintenant, vous pouvez le faire aussi, on a ouvert la voie.
C'est exceptionnel. Bertrand, pour terminer, je sais que votre temps est précieux. J'ai quelques petites questions un peu personnelles. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une erreur, un échec, un moment de doute que vous auriez vécu, dont vous pourriez nous parler, et notamment les enseignements que vous en auriez tirés? Parce que comme d'habitude, en fait, le doute, l'erreur, l'échec, ben, on le voit négativement au moment où on le vit. Et puis ensuite, parfois, on se rend compte qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut en tirer.
Bien sûr, moi j'ai eu plein d'échecs et souvent il y a des succès spectaculaires qui font oublier la difficulté pour y arriver. Le premier décollage de la première tentative de Tour du Monde en ballon, c'était terrible. J'ai annoncé dans une conférence de presse que j'allais faire le Tour du Monde sans escale avec un vol de 3 semaines dans les Jetstream et après 6 heures de temps, mon ballon flottait en Méditerranée au large de Montpellier. On avait dû amerrir en catastrophe pour un problème technique. Mais ma fille, on n'osait même plus aller à l'école. Ma fille aînée, elle m'a dit, papa, ils vont se moquer de moi si je vais à l'école. Mmh. Et je lui ai dit, mais Estelle, c'est normal que les gens rient. C'est ridicule ce que j'ai fait. C'est complètement imbécile. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait ça, je serais mort de rire. Elle dit, ah bon? Ah ok, alors je retourne à l'école.
Et puis elle a dit, faut pas avoir honte.
C'est très bien passé. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que le pire, c'est pas de rater. Le pire, c'est de pas essayer. Ça m'a montré que il fallait pas s'acharner, mais il fallait être persévérant. C'est-à-dire qu'il faut jamais réessayer de la même manière que la manière qu'on a raté. Mmh. Parce que sinon, on aura toujours le même résultat. Donc, j'ai changé pas mal de trucs au niveau technologique, stratégie de vol, etc. Puis la deuxième fois, ça a été mieux. J'ai fait un record du monde de durée de vol, plus long vol dans l'histoire. Mais je me suis quand même arrêté en Birmanie. Ça faisait même pas la moitié du tour du monde. Alors pendant ce temps, tous les milliardaires qui essayaient aussi rataient également. Donc c'est vrai que ça met du baume sur le cœur de se dire qu'ils ont beaucoup.
On se réjouit pas de l'échec des autres, mais bon quand même.
Et puis ensuite, j'ai tout changé sur le ballon. Le type de carburant, j'ai changé l'équipage, j'ai changé plein de choses et j'ai réussi. Et pendant ce temps, les milliardaires continuait avec les mêmes erreurs, les mêmes mauvaises stratégies et les mêmes fausses technologies. Et ils continuaient à rater. Et ça m'a vraiment montré à quel point il faut être flexible et se remettre en question. Et chaque fois qu'on rate, il faut réessayer autrement que ce qu'on a fait précédemment. Il faut toujours lâcher le lest, changer d'altitude, trouver une autre direction, une autre altitude. Et ça, c'est un peu la métaphore aussi des abeilles et des guêpes. Si vous avez dans une pièce avec beaucoup de fenêtres, une seule fenêtre ouverte, puis vous lâchez une abeille et une guêpe, elles vont les deux sur la première fenêtre, la plus proche, mais l'abeille, elle reste contre cette fenêtre jusqu'à ce qu'elle meure, et la guêpe essaye toutes les fenêtres jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre ouverte, et là, elle arrive à sortir. Et il faut vraiment avoir la stratégie de la guêpe et pas la stratégie de l'abeille. Je pense que mes concurrents, dans le tour du monde en ballon, étaient des abeilles, moi j'étais une guêpe.
On va vous appeler la guêpe.
Et les entrepreneurs doivent être des guêpes.
Ça, c'est sûr.
Si on veut réussir aujourd'hui dans cette jungle économique, financière et technologique, il faut être une guêpe. Il faut chaque fois essayer d'autres stratégies, d'autres manières de faire. Il faut être très, très agile. Et comme ça, tout à coup, on arrive à trouver une fenêtre de tir et on réussit.
Et comme vous dites, il ne faut pas faire la confusion entre persévérance et acharnement. Ça, c'est complètement clé. Une autre question, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, d'ailleurs personnelle ou professionnelle ou autre, que referiez-vous différemment?
Je pense qu'après coup, on voit qu'on a pu heurter des gens, on a pu être On n'a pas eu la compréhension qu'il fallait vis-à-vis de certaines personnes. On a pu faire du mal sans le vouloir. Donc, je pense qu'il y a certaines situations où je me comporterais peut-être pas de la même manière, où j'aurais peut-être plus d'empathie, où je ferais différemment. Sur le plan de ma vie, je pense que les échecs que j'ai eus étaient utiles et j'ai pu en apprendre plein de choses. Sur le plan de la manière de gérer mes projets, je pense qu'avec Breitling Orbiter, j'étais pas assez impliqué dès le début sur la technologie. Donc, je pense que avec un tour du monde en ballon comme ça, j'aurais dû plus m'impliquer. Avec Solar Impulse, il y a quelque chose que je ferais autrement. Je donnerais pas autant de pouvoir aux ingénieurs. Les ingénieurs, finalement, s'étaient beaucoup impliqués émotionnellement, ce qui est magnifique. Je considérais que cet avion était à eux et que la meilleure manière de pas le casser, c'est qu'on vole pas. Donc, c'était un peu paradoxal, même quand c'est André Borschberg, qui était plus expérimenté que moi en tant que pilote, qui volait, les ingénieurs étaient terrorisés, qu'il y avait un tout petit problème, ils essayaient d'interrompre le vol, alors que c'est clair qu'un projet comme ça, c'est une aventure, c'est pas un business plan, c'est pas des procédures opérationnelles uniquement. Je me rappelle qu'à un certain moment, on a dû se confronter aux ingénieurs avec André en disant, c'est nous qui dirigeons ce projet et on va faire comme ça. Mais les autres menaçaient de démissionner, ils pleuraient en disant « Mais comment vous pouvez ignorer la vie d'experts comme nous et prendre des risques pareils ?» Mais c'est clair, quand on est un explorateur, ben on est obligé par moment de faire le saut dans l'inconnu. Sinon, on réussit pas. Et moi, tous les gens que j'avais vus dans mon enfance et dans ma vie qui étaient des gros explorateurs, il y a toujours un moment où ils ont fait le saut dans l'inconnu et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et s'ils avaient suivi toutes les procédures, ils n'auraient jamais réussi.
Ni l'Armstrong. Mais ils se seraient jamais lancés, sans doute.
Oui, mais ni l'Armstrong, au moment où il atterrissait sur la Lune, était à 8 secondes, je crois, de l'épuisement du carburant. Et s'il avait vraiment suivi toutes les procédures, il aurait avorté l'atterrissage et il serait reparti. Et il n'aurait jamais posé sur la Lune. Chuck Yeager a passé le buisson avec une côte cassée. Il n'arrivait même pas à fermer la porte de sa capsule. Le mécanicien lui avait donné une barre de métal pour qu'il puisse fermer la porte parce qu'avec la main droite, il n'arrivait pas à cause de sa côte cassée. Il y a des moments où on doit y aller si on veut réussir. Et parfois, j'ai été entouré de gens qui n'avaient pas cet état d'esprit-là. J'aurais peut-être dû les forcer un petit peu plus dans ce domaine-là.
Je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous croyez qui est souvent assez controversé ? Ce n'est pas du tout forcément politique, mais c'est justement, on parlait de croyance au début, une croyance qui vous tient à cœur, et vous constatez que le monde, la société actuelle, n'est pas forcément d'accord avec vous.
Je crois à une croissance économique permise par la protection de l'environnement. Alors, je suis parfois en opposition avec le monde économique qui me dit « Non, non, la protection de l'environnement, c'est trop cher, on peut pas se le permettre. » Et je suis en même temps en porte-à-faux parfois avec des écologistes qui me disent « Il peut pas y avoir de croissance économique propre. La croissance économique forcément détruit l'environnement. » Donc, parfois, je suis un petit peu seul là avec ce... Mais je crois même que c'est la voie à choisir. Parce que finalement, la décroissance, je pense que ça mène au chaos social. Et le développement d'une croissance soi-disant illimitée, comme on la considère aujourd'hui, elle mène au désastre écologique. Donc, entre chaos social et désastre écologique, il faut forcément trouver une autre voie. Et pour moi, la voie de la croissance qualitative, où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement, c'est la seule manière de concilier pour moi écologie et économie. Mais peut-être qu'une fois, je m'en remettrai en question, puis je verrai que j'ai tort, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours partir de l'idée qu'on a peut-être tort et écouter les avis des autres pour se remettre en question.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens de notre conversation. Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse, une citation peut-être, on a parlé de Mark Twain ou de la Torah, on ne sait pas trop, qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec notre audience?
Moi, il y a une maxime que j'ai apprise, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit avant ou pas, mais que le pire, ce n'est pas de rater, le pire, c'est de ne pas essayer. Et qu'il faut systématiquement arriver à dépasser sa peur de l'échec. Il y a des... Maxime, c'est marrant parce que vous me prenez un peu de cours là, et je suis sûr qu'après cet enregistrement, il y aura des dizaines de Maximes qui vont me sauter à l'esprit en me disant « Mais bien sûr, j'aurais dû dire ça. »
Vous me les enverrez.
Il y en a une de Kierkegaard qui est très belle. Il vaut mieux se perdre par sa passion que de perdre sa passion.
Magnifique. Je ne la connaissais pas. Je vous remercie. Et ma dernière question, Bertrand, est-ce qu'il y a, parce que je suis une grande lectrice, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, que vous estimez peut-être être fondamental, sans faire de jugement de valeur, mais fondamental et que vous aimeriez vraiment partager pour que notre audience les lise ?
Il y a un livre qui m'a marqué énormément quand je commençais à faire de l'Endenta, c'était Jonathan Livingstone, le goéland.
J'adore.
C'est sublime. Je ne sais pas si les gens continuent à le lire, mais je trouve magnifique.
Je pense que mon audience le lit beaucoup parce que figurez-vous que j'ai un book club et que Jonathan Livingstone, le goéland, est le deuxième livre que j'ai proposé sur le book club. Donc, je pense que tout le monde ne l'a pas lu, mais d'ailleurs, je vous invite à lire tous. Oui. C'est en plus très court, c'est très poétique, c'est magnifique.
Et puis ensuite, bon, c'est très métaphorique. Donc ensuite, il y a un livre beaucoup moins métaphorique qui parle un peu de la même chose. Mais alors là, c'est vraiment l'inverse comme style. C'est Fragments d'un enseignement inconnu de Ouspensky qui parle de l'enseignement de Gurdjieff, qui est un philosophe caucasien sud de la Russie, qui est venu en France au début du XXe siècle et qui y a enseigné pendant plusieurs dizaines d'années. C'est très intéressant, cette approche de la conscience de l'instant présent, du rappel de soi, de toute une cosmologie extrêmement intéressante. Et d'accord. Puis ensuite, plus dans l'air du temps et dans mes préoccupations actuelles, un livre qui s'appelle Or noir, la grande histoire du pétrole.
D'accord, ça c'est intéressant aussi.
Ça, c'est vraiment marquant comme lecture, parce que vous voyez à quel point pendant 100 ans, l'entier du système économique, financier et politique, l'entier du système social, l'entier des guerres civiles, des coups d'État et des bassesses de l'humanité ont été axés sur le besoin de s'approvisionner en pétrole. Et à quel point, quand on pourra enfin passer aux énergies renouvelables, on pourra se débarrasser d'une grande partie de cette violence. C'est-à-dire, en fait, de pouvoir créer de l'énergie et de l'électricité sur place, chez soi, avec des sources renouvelables et propres, plutôt que d'aller se battre pour s'approvisionner en énergie venant d'ailleurs. Ce livre, il est extrêmement intéressant. C'est pas un livre qui met des opinions, c'est un livre qui décrit des faits historiques.
Les factuels, ouais.
Les opinions, on se les fabrique en lisant le livre.
Ça sera un très bon mot de la fin. Je mettrai en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Bertrand, pour pouvoir vous retrouver, si on veut continuer à suivre vos explorations, quel serait, selon vous, le meilleur moyen de le faire ? Peut-être sur vous suivre, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Quel serait le meilleur moyen de vous suivre, au final ?
Alors, suivre ce que je fais, c'est les sites internet, bertrandpicard.com et solarimpulse.com. Suivre ce que je pense... c'est le dernier livre que j'ai écrit, enfin c'est l'avant-dernier livre que j'ai écrit, c'est Changer d'altitude chez Stock. C'est un livre qui permet vraiment de comprendre ce que je pense et ce que j'ai envie de faire passer comme message philosophique ou spirituel. Et puis l'histoire continue avec la recherche des 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement avec ma fondation Solar Impulse. On en est bientôt à 800. Et ça, on peut le suivre sur
les deux sites internet.
Hein,
sur les deux sites internet que je mettrai pareil dans les notes. Et donc, évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus encore sur Bertrand, n'hésitez pas à les consulter puis à soutenir la fondation. Bertrand, merci. Merci pour votre temps. Je vais vous quitter parce que je sais que vous avez d'autres engagements, mais je voulais vous remercier. C'était un immense plaisir pour moi de vous avoir. Ça passe trop vite. J'aurais bien aimé, mais peut-être ça sera une deuxième session un peu plus tard. Vous aurez un nouveau livre.
Vous aviez lu Changer d'altitude ?
J'ai lu Changer d'altitude. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais bon, c'était un peu les questions que je vous posais, on va dire, en filigrane, étaient liées à ça.
Voilà. Très bien.
Donc, je vous remercie pour votre temps, Bertrand.
J'ai eu énormément de plaisir à écrire. C'est vrai que Solar Impulse, c'était la manière de passer mon message technologique et environnemental, et Changer d'altitude, c'était
beaucoup plus personnel.
Ouais.
Merci pour tout.
Je vous en prie.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.